Ok. Qui a aimé ce temps de louange ? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Avec ma chère épouse, on a l'honneur de partager ce matin. Mais merci. Encore un peu, s'il vous plaît. C'est bien. Ça s'appelle la foi. Pour ma part, c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'aurais besoin de votre acceptation, votre pardon à l'avance pour les s'il y a des choses qui doivent être pardonnées et que vos cœurs soient ouverts parce que je suis pas un mec parfait. C'est ce que ma femme n'accepte pas. On va faire un petit truc. Vous allez lever la main. Je vais vous poser une question et vous allez lever la main. Donc soit pour venir ici aujourd'hui, soit la première fois que vous avez entendu parler de Jésus. Qui a entendu parler de Jésus par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ? Les mains bien haut. Ok. On va parler aujourd'hui d'un thème qui est essentiel, qui est vital à la vie du chrétien. À la vie d'église, quelque chose qu'on peut exercer partout où on va, que ce soit à la salle de gym, pour ceux qui font du sport, ou bien en course, au boulot, à la boulangerie, n'importe où. Ça va être le thème de l'évangélisation. L'évangélisation, je vais avoir le plaisir de voir qu'est-ce que c'est l'évangélisation, de quoi on parle, et à qui je m'adresse. Qui est censé évangéliser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'évangélisation, c'est partager l'évangile. C'est partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec quelqu'un d'autre. Et ça peut être une seule personne, ça peut être plein de monde. Mais c'est aussi une mission qui vient avec une promesse. Qu'est-ce qu'en dit la Bible ? En Matthieu 28, versets 19 et 20, à 20, la Bible dit « Allez, et de toutes les nations, donc partout où vous allez, vous pouvez aller en Amérique, c'est pareil, ça marche aussi, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est donc Jésus qui parle. « Et moi, je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est une bonne promesse, moi je la veux pour moi. Je veux bien que Jésus soit avec moi, parce qu'il m'a donné son esprit, et il l'a donné à vous aussi. Mais c'est pas... On va parler un truc ce matin, l'évangélisation, c'est donnant-donnant. C'est comme à la maison, chez nous, on a un peu le système du donnant-donnant. Moi je vais faire la vaisselle, et Louise va étendre le linge. C'est vrai ? On est d'accord. Donc la Bible nous parle de faire des disciples. Mais faire des disciples, on parle souvent à l'église de faire des disciples qui font des disciples. Mais avant de pouvoir faire des disciples et de baptiser les gens, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà baptisé des gens et ont déjà fait des disciples, et je n'ai pas envie de le savoir, je n'ai pas besoin de le savoir. Allez-y, levez les mains. Mais il faut pouvoir évangéliser. Évangéliser, donc ça consiste à répandre la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et aussi à aider les autres à croire en Jésus, en ce que vous êtes au baratin que vous êtes en train de leur donner, parce qu'ils vous prennent pour des fous. Mais on parle de vie, de mort, c'est une puissance. L'évangélisation implique de partager des histoires de notre propre existence, des écritures, de la parole. Notre histoire de salut, comment on est venu à Jésus. Vous n'êtes pas obligé de connaître plein de choses dans la vie. Il y a une chose au moins que vous connaissez, c'est votre vie à vous. Et que vous pouvez facilement peut-être la partager à quelqu'un d'autre par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc on peut prier aussi. C'est une chose qu'on peut... Si on ne sait pas quoi dire, on peut juste prier, parler à Dieu, et il va vous dire quoi faire. Parce que Dieu parle. Amen. Donc on peut leur partager, on peut prier avec eux, on peut prier pour eux, les inviter à avoir une relation de salut, une relation salvatrice avec Jésus. L'évangélisation, c'est vraiment un job à nous qu'on a. Et tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser un muscle. La moindre des choses, c'est utiliser un muscle que Dieu vous a donné, c'est la langue. La langue, elle peut donner la vie, elle peut transmettre la mort. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la vie. La Bible, dans Actes 2, verset 40, nous dit que Pierre, l'apôtre Pierre, il rendait témoignage. Donc il rend témoignage, par exemple, et les disciples, ils rendaient témoignage, ils enseignaient ce qu'ils ont vu Dieu faire. Donc toujours rendre gloire, témoigner, parler de ce que Jésus a fait. C'est pas le centre de l'histoire, c'est pas nous, c'est toujours Jésus. Mais Dieu, il utilise des gens imparfaits, comme moi, comme vous, pour faire ça. Et donc là, qu'est-ce que l'évangélisation n'est pas ? C'est pas simplement, du coup, de parler de Dieu aux autres. Déjà, c'est une très bonne chose, excellent. Mais ça consiste à les aider à devenir des disciples qui font des disciples. Donc on est vraiment sur l'extérieur et on veut voir des nouveaux croyants devenir des disciples entièrement dévoués à Jésus et aider les autres à faire de même. Donc on n'est pas là pour faire des récepteurs vraiment. Parce que quand le message de Jésus est transmis et que on se remplit nous-mêmes de ce que Jésus, de la parole de Jésus, on est comme ce qui se passe à un mariage. Est-ce qu'il y en a, levez de main, qui a déjà assisté à un mariage ? Je pense, je vous ai peut-être vu une fontaine de champagne qui coule à flot, et il suffit que la première coupe en haut de la fontaine soit remplie pour qu'après ça déborde et ça continue. Et ben, quand on se remplit, quand on cherche Dieu, Dieu fait déborder notre coupe. Et on est obligé de plus on se remplit, plus on déborde. L'évangélisation, c'est une marque du débordement de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour que l'on a pour Dieu. C'est un lien étroit qui fait que plus il y en a, tout est relié à l'amour de Dieu. Quand on se remplit de l'amour de Dieu, on déborde et on peut passer le message à droite ou à gauche. Petite question. Qui d'entre vous a vu le film Fight Club ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film Fight Club ? Ok, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la règle numéro 1 du Fight Club ? J'entends pas. Merci Axel. Il faut pas parler du Fight Club. Moi je vais vous proposer la règle de Jésus. C'est quoi la règle de Jésus ? On parle de Jésus. On parle de Jésus. Donc, on a envie de se battre. On est dans une guerre spirituelle. On n'est pas en train de se battre avec notre voisin. On est en train de se battre avec des puissances, des autorités spirituelles. On est en bataille. Et la règle pour la bataille, c'est de parler de Jésus. Quand deux personnes tombent amoureuses, j'ai une femme qui est extraordinairement belle et un tonnerre d'applaudissements pour ma femme, s'il vous plaît. J'ai une femme qui est belle. Et quand je suis tombé amoureux, je vais vous partager un truc que peu de personnes savent. Mais j'avais 18 ans. Et un jour, il y avait une jolie demoiselle qui marchait pas loin de moi, qui se rapprochait de moi. Et j'avais un pote au lycée qui me parlait d'elle. Et moi, j'étais un peu timide. Et le type me dit « Hey, t'as vu cette fille là-bas ?» Je lui ai pas dit que je la connaissais. On n'était pas ensemble ou quoi que ce soit. Et je dis, et il me dit « Ah, t'as vu ?» Je dis « Ah ouais, bof. » Et j'ai eu la mauvaise idée de partager ce moment à ma chère et tendre, qui bien sûr a été déçue parce que c'est pas ce que je pensais. Je trouvais que c'était la femme la plus merveilleuse. Et après, je me suis mis une claque et j'ai commencé à dire à tout le monde que, en fait, elle était extraordinaire. Et je me suis fiancé. On s'est fiancé quand on était au lycée. Et j'ai dit à tout le lycée que j'étais que je me fiançais avec elle. La question que j'ai pour vous, c'est où est-ce que vous êtes dans votre couple avec Jésus ? Est-ce que on est en couple avec Jésus ? En tout cas, Vous, vous n'êtes pas en couple avec Jésus, lui, il est en couple avec vous. Et est-ce que vous l'êtes ? On est son épouse, c'est ce que la Bible dit. On est son épouse. Dieu, on est fait pour être ensemble. Ce que je vous encourage ce matin, c'est je vous encourage à revenir vers lui. Parce que Dieu est amour. C'est pas ce qu'il fait. Moi, je demande parfois à ce que Dieu me donne plus d'amour quand j'en manque, quand je suis fatigué, parce que j'ai quelques enfants, et parfois je suis fatigué, et parfois j'ai du mal à exprimer mon amour envers ma femme, ou à le communiquer. Mais parfois on est humain, on est tous pareils, on a besoin de recevoir de l'amour. Mais Dieu, il a pas besoin de recevoir de l'amour, il est amour, c'est ce qu'il est, c'est pas ce qu'il fait. Donc si on se rapproche de lui, on recevra de l'amour automatiquement. Amen. Nous l'aimons, c'est ce que Jean 1 Jean 4 verset 19 dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et on a juste besoin de revenir vers lui, la source d'amour c'est lui. Et plus on est rempli d'amour, plus, et qu'on va témoigner des gens, les gens ils vont se dire, mais pourquoi t'es bizarre, pourquoi t'es différent ? Quand j'avais 13 ans, j'ai fait ma première colo de jeunes, et un soir, un après-midi, lors d'une activité, une balade dans les champs, il y a une bande d'adolescents comme moi, de gars, qui ont commencé à se jeter, à faire un pogo, à se jeter sur un type qui n'a rien demandé. Et tout le monde lui a sauté dessus. Et moi, je suis resté à l'écart. À côté des autres monos, des filles, parce que tous les autres mecs étaient partis. Et là, il y a une dame qui me dit, mais pourquoi tu n'y vas pas ? Et à ce moment-là, je me suis... En fait, il faut savoir que quand j'étais tout petit, j'ai vu le film... Le voyage du pèlerin. Et j'ai été interpellé par l'un des personnages, c'était l'évangéliste. Et en étant tout petit, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça le métier que je veux faire, je veux être évangéliste. Et à 13 ans, à ce moment-là, la dame me dit, mais pourquoi tu vas pas que, pas en mode déprimé, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc, je vois qu'il y a un truc en toi, c'est quoi le truc ? Et moi, bonne poire, je voulais évangéliser à ce moment-là, même si je n'ai pas dit ce mot. Et je lui ai dit, j'étais fier de moi, j'étais chaud, je lui ai dit, bah parce que je suis fils de pasteur. Et c'était pas la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui est important de savoir, c'est savoir qui nous sommes. Pas justement fils d'un... Parce que mon papa était pasteur, donc pas... C'est pas notre identité, notre carte d'identité humaine, c'est une chose, mais spirituelle. C'est-à-dire qui on est, vers qui on a, quel est notre papa, et qu'est-ce qui fait que, pourquoi on est rempli, qu'est-ce qui nous remplit, qu'est-ce qui nous dirige, qu'est-ce qui nous fait faire telle ou telle action ou telle parole. Et toujours ce que la Bible dit en 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Il faut savoir qu'en sachant que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est toujours important d'être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. On a une espérance, et quand on déborde de cette espérance et de cet amour, il faut pouvoir témoigner. Parfois, ce n'est pas facile. Mais ce qui est très important, point important, c'est de toujours revenir vers Jésus. Certes, Dieu nous utilise, et parfois on peut prier, et moi ça m'est déjà arrivé, de dire « Jésus, je veux rien de moi, et tout de toi. » Mais non, Jésus veut nous, il nous a choisis, il nous utilise, mais le témoignage rend toujours gloire à Dieu. Donc on parle d'évangélisation, qui peut évangéliser ? Au commencement dans l'Église, Jésus il a donné le commandement, en Matthieu 28, à tous les disciples d'aller de partout. Donc, je pense que quand on est rempli de l'amour de Dieu, si on n'a pas vraiment envie de garder ça pour soi tout seul. Parce que ce n'est pas un message qui a été accordé à une poignée de chrétiens. C'est en fait, le témoignage, il est accordé à tous les chrétiens. Et parfois, on peut se dire, on peut se donner des excuses, se chercher des excuses. La Bible nous parle en Éphésiens 4, des cinq ministères, il y en a un, c'est le rôle, c'est l'évangéliste, justement, comme je parlais tout à l'heure. On peut se dire, je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas exercer la mission que Dieu m'a donnée parce que je ne suis pas évangéliste. Mais il faut savoir faire la différence entre le titre, le ministère d'évangéliste est la mission d'évangélisation qui a été donnée à tout le monde. Parce que tout le monde a besoin de l'amour et du message de la grâce. Puisque si à l'époque les disciples n'avaient pas témoigné à tous, je pense que Connect aujourd'hui, si on ne serait pas là. Et un truc qui m'a fait rire, c'est que si tu as envie de partager la bonne nouvelle, pense à Nike. C'est la marque de chaussures, de vêtements. Just do it. Juste fais-le, cherche pas à comprendre. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est témoigner. Dieu, il va faire le reste. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans le cœur des gens, tu es responsable d'obéir et de faire ta part. Dieu, il fait le reste. Est-ce que notre évangélisation consiste simplement à inviter les gens à des réunions d'église ? Parce qu'on passe un bon moment, il y a une bonne louange, une bonne sono, de la clim, un café. Ou bien, l'évangélisation, c'est les inviter directement à Christ, à une relation avec Christ. On entend parfois d'évangélisation et on pense aux, comme ils appellent ça, les croisades d'évangélisation, où il y a des gens qui vont sur des estrades en Afrique du Sud, par exemple, et qui parlent à des millions de gens. Et en une soirée, il y a des millions de gens qui donnent leur vie à Christ. On se dit, ah putain, il sait parler, il est bien lui. Mais peut-être que Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Parce que je sais que ma femme, par exemple, mais moi c'est pareil, hein, on n'est pas chaud pour aller en Afrique du Sud. Mais peut-être qu'on est juste appelé à parler de Jésus à notre voisin, à parler de Jésus aux collègues de boulot, et le voir se tourner à Christ. Parce que c'est la fête dans les cieux quand il y a une personne qui se tourne vers Christ. Dieu n'a pas besoin qu'il y en ait 40 000 qui se tournent vers Christ pour être content. Il y en a une seule personne qui se tourne et c'est la fête au ciel. Amen. Dernière chose. Je sais pas vous, mais moi j'entends, et je l'ai déjà pensé, si je pouvais, je le ferais. Si je pouvais évangéliser, si je savais comment faire, je le ferais. Je te jure, je te promets, je le ferais, ça serait avec plaisir. Mais moi je veux vous encourager à changer la façon de penser. Et à penser différemment, à penser je peux car je le veux. Et on ne faut pas, voilà. Renouvelons notre pensée. Trop de chrétiens rangent l'évangélisation dans le tiroir des dons spirituels, comme j'ai dit. Alors qu'on devrait tous le ranger dans le tiroir de la discipline spirituelle. C'est ce que le chrétien fait. Le chrétien, ce n'est pas un job qu'à la fin de la journée, il peut rentrer chez lui et se dire « Ah, c'est bon, je recommencerai demain. » Mais juste, c'est quelque chose, c'est juste un style de vie. On a notre cher pasteur Mathieu qui est en train, qui a changé son style de vie en allant courir et en faire du vélo, j'ai l'impression toutes les demi-heures, il fait 50 km toutes les demi-heures. Il a changé son alimentation, c'est dingue ce qu'il a fait. Mais voilà, maintenant, et honneur à lui, respect robustesse, mais changeons notre style de vie. Toujours la pensée vers l'éternité, pas que pour nous, mais vers les autres. La moisson est grande, mais les travailleurs sont pas nombreux. Alors, let's go. Amen. Je vais passer le micro à ma merveilleuse femme. Un tonnerre d'applaudissements.
Moi, je te passe le bébé. Alors, donc comme on est tous appelés à évangéliser, même s'il y en a qui ont un super ministère d'évangélisation, qui sont appelés à quitter leurs amis, leur famille, leur pays, pour aller là où Dieu les appelle et à partager de manière extraordinaire l'évangile, ce qui est fantastique, c'est pas notre cas. Je ne sais pas combien se sentent appelés à ce ministère d'évangélisation, mais en tout cas, même si ce n'est pas votre cas, on a tous notre part à faire. Et je vais vous donner 3 points très concrets de qu'est-ce qu'on peut faire pour partager cette bonne nouvelle de Jésus. Donc, le premier point, en parlant de Jésus à d'autres. Comme l'a dit Mathias tout à l'heure, si on n'a pas eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, probablement que la première fois qu'on a entendu parler de Dieu, c'était au travers de quelqu'un d'autre. Moi, c'était mon cas, c'est parce qu'une amie m'a parlé de Jésus que je me suis tournée vers lui. Donc maintenant, c'est à notre tour de faire la même chose pour d'autres personnes. Je ne sais pas si vous étiez là quand Simon avait partagé une manière très concrète de donner notre témoignage, parce que souvent, on a envie de tout raconter, quoi. On a envie de rentrer dans les détails, ce qui s'est passé pour nous, c'était tellement énorme, on a envie de tout dire. Mais en fait, ce n'est pas ça qui garde l'attention de la personne qui écoute. Donc Simon nous avait donné une façon très concrète de partager notre témoignage à l'aide de trois phrases très simples et très courtes. Une phrase qui résume comment on se sentait avant que Jésus soit entré dans notre vie. Une phrase pour dire qu'est-ce qui s'est passé au moment où Jésus est entré dans notre vie. Et une phrase pour dire comment on se sent maintenant. Donc c'est très simple, mais ça demande qu'on fasse nous-mêmes l'exercice à l'avance, qu'on ait déjà préparé ce témoignage pour qu'on sache quoi dire lorsque le moment se présente. Donc par exemple, pour moi, je dirais... Il y a eu un moment dans ma vie où je connaissais pas Dieu et où je me sentais seule et je me sentais sans espoir. Et puis un jour, j'ai rencontré Jésus, j'ai senti sa présence et j'ai eu envie d'apprendre à le connaître. Et depuis, je me sens aimée et j'ai à nouveau de l'espoir. Et voilà, ça m'a pris quelques secondes et ça suffit parce que vous savez que maintenant... Le temps d'attention de l'être humain est de quelques secondes seulement et c'est tout ce dont on a besoin pour capter l'attention de quelqu'un. Et à partir de ce témoignage-là, la personne en face de moi, soit ça ne l'intéresse pas du tout, et ben voilà, bon, j'ai gâché 30 secondes de sa vie et puis c'est pas grave, on passe à autre chose. Soit ça va l'interpeller, elle va me dire mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment tu as rencontré Jésus ? J'aimerais bien en savoir plus. Et à ce moment-là, soit on va l'inviter à prendre un café et partager plus, ou on peut détailler. Mais c'est important d'avoir ce témoignage à l'avance. Il est prêt, comme ça on sait quoi dire, on n'est pas pris au dépourvu, on ne part pas dans tous les sens, et on sait quoi dire. Parfois, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, peut-être que vous êtes tous meilleurs que moi, mais on peut avoir un peu honte quand on est au milieu de non-croyants, de parler de notre foi en Dieu. Et pourtant, quand, par exemple, je me balade avec une amie dans la rue et que je croise quelqu'un que je connais, je ne vais pas aller dire à mon ami « Vite, vite, va te cacher, il y a quelqu'un que je connais. » Je vais présenter mon ami. Je vais dire « Écoute, je te présente machin, voilà, je présente. » Et bien, Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est notre ami, il est tout le temps avec nous. Et donc, n'ayons pas honte de partager aux gens qu'on rencontre. « Écoute, j'ai un ami. » Il s'appelle Jésus, et voilà, je te le présente très rapidement. Si ça t'intéresse, je te le présente un peu plus. Dans 2 Timothée 1, verset 8, « N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur. Au contraire, soyons fiers de lui appartenir. » Si vous avez vu The Chosen, c'est une série qui reprend le moment où Jésus était sur Terre. Et il y a un passage où Jésus va parler à la femme au puits, et elle lui raconte tout ce qu'elle a fait. Et puis la femme, on voit bien dans la série, elle court dans la ville et puis elle dit « Oh là là, cet homme, il m'a raconté tout ce que j'avais fait. Je pense que c'est le Messie, je pense que c'est le Messie. » Et elle a tellement été touchée par ce que Jésus avait fait qu'elle va en parler encore et encore. Et elle va le redire à tout le monde dans le village. Et puis on la revoit quelques scènes plus tard au marché, où les disciples sont en train d'acheter à manger et puis on revoit cette femme qui dit « Hé, tu sais pas ce que Jésus a fait ?» Et puis la femme qui vend ses légumes, elle dit « Oui, je sais, tu nous l'as déjà dit. » Et je me dis « Mais soyons comme cette femme au puits qui déborde tellement de cette envie de partager qu'en fait, presque elle bassine tout le monde. » quoi. Mais au moins les gens savent, cette femme-là, elle a rencontré Jésus. Si un jour j'ai une question sur Jésus, je sais que je peux aller la voir. Parce qu'elle... Elle sait, elle a vécu quelque chose. Donc voilà, parler de Jésus à d'autres, avec un témoignage très court, très simple. Mais, même si on se sent pas encore prêt à faire ça, ou on n'a pas encore eu la bonne opportunité, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Une autre chose qu'on peut faire, qui est très importante, c'est de prier. Alors je vais vous raconter un peu plus en détail mon témoignage. Moi, quand j'étais, donc je devais avoir 16 ans, et j'avais une amie au lycée qui était chrétienne et qui lisait sa Bible régulièrement et ça m'avait interpellée parce que je me disais pourquoi une jeune fille de 16 ans aurait envie de lire sa Bible quoi. C'était pas trop le délire de ce qu'on faisait au lycée. Et cette jeune fille, un jour, m'a invitée dans son église, enfin, elle habitait très loin, donc elle m'a invitée à passer le week-end chez elle, et elle m'avait prévenu, écoute, le dimanche matin, je vais à l'église, donc tu viendras avec nous, voilà, mais c'est 2 heures, t'inquiète pas. Donc je dis, ouais, pas de souci, j'avais jamais mis les pieds dans une église, j'entre, je m'assois, donc je suis assez ouverte d'esprit. Et puis, c'était une église évangélique, donc il y avait des bannières, il y avait des gens qui parlaient en langue, c'était une toute petite église, mais bon, en tout cas, je me suis retrouvée sur ma chaise à me dire, mais qui sont ces fous? Qu'est-ce qu'ils font là? Je me suis dit, c'est pas possible, il y avait des docteurs, il y avait des avocats dans l'église, je me disais, mais ces gens sont pourtant intelligents, et là, ils sont en train de crier, de lever les bras, de danser, ils sont fous, ces gens sont fous. Et donc, je suis ressortie en me disant, mais plus jamais je remettrai les pieds dans une église. C'est trop n'importe quoi. Voilà, je veux rien avoir à faire avec ça. Et ils se sont passés plusieurs mois. Je voulais même plus entendre parler de Dieu. Je voulais plus que mon amie, elle m'en parle. Je m'étais dit, je retournerai pas à l'église. C'est vraiment, c'est trop bizarre. Et puis, quelques mois plus tard, environ 6 mois plus tard, cette amie m'invite à nouveau, cette fois-ci pour une fête. Donc je me dis, bon, je vais quand même essayer d'être une bonne amie, je vais y retourner, je vais prendre sur moi pendant 2 heures, parce que je sais que le dimanche, il faudra retourner à l'église, mais c'est pas grave, je prendrai sur moi, maintenant je suis prête. Et donc, j'arrive dans cette église, cette fois-ci pas du tout ouverte d'esprit, je m'installe même les bras croisés sur ma chaise, en mode je veux rien savoir de ce qui se passe ici. Et puis j'entends à peine les premières notes du piano, et je vois, j'ai une vision de Jésus qui s'avance vers moi, les bras ouverts, et je sens sa présence de manière tellement forte, j'ai su qu'il existait, alors que je ne savais même pas qu'il était mort sur la croix, je ne connaissais pas du tout son histoire, mais j'ai su qu'il était vivant, parce qu'il était là devant moi, et que j'ai senti sa présence, et voilà, j'avais envie de savoir qui était cet homme devant moi. Et donc pour résumer, j'ai eu 2 visites dans cette église, la première catastrophique, et la deuxième qui a changé ma vie. Et la seule différence entre ces 2 visites, c'est que mon amie et sa maman ont prié pour moi régulièrement. Et même si elles n'ont pas vu les fruits quand elles priaient, parce que moi, de l'extérieur, il n'y a rien qui avait changé. J'avais pas du tout envie de parler de Dieu, j'étais très très fermée. Mais dans le ciel, il s'est passé quelque chose, puisque la deuxième fois, c'était extraordinaire, quoi. J'ai vécu le plus beau moment de ma vie. La prière fervente du juste est efficace. C'est dans Jacques 5, verset 16. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous déclarés justes par la foi, donc toutes nos prières sont efficaces. Donc même si on ne voit pas, peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour quelqu'un et que vous ne voyez pas encore le résultat, mais dans le ciel, il se passe des choses, dans l'invisible, là où on ne peut pas voir. La prière est puissante, la prière est efficace. Et même si on ne voit pas encore les fruits, on peut continuer à prier. Parce que c'est une promesse que Dieu nous fait, que notre prière est efficace. Elle porte des fruits. Et même si on n'a pas encore eu l'opportunité de parler de notre témoignage, de donner notre témoignage à quelqu'un, prier, on n'a pas besoin d'attendre la bonne opportunité. On peut le faire tout le temps. Donc, on est tous capables de ça. Et enfin, la dernière chose, et c'est pas une petite chose, c'est que la meilleure façon de rendre témoignage de Dieu, c'est de mener une vie en accord avec les valeurs chrétiennes. Notre vie, c'est notre plus grand témoignage. Parce que, normalement, on ne devrait même pas avoir besoin de parler de Dieu. Les gens devraient se rendre compte qu'on est différent. C'est ce qui devrait les interpeller, c'est ce que Mathias racontait un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que si je vais voir quelqu'un et je lui dis « Oh Jésus, il est incroyable, il fait des miracles, il m'aime, il t'aime, il est extraordinaire » et que juste après, je m'énerve parce qu'une voiture m'est passée devant et que je commence à insulter le conducteur, quel témoignage je suis en train de rendre ? Ben, je suis pas différente du monde là. Je fais exactement la même chose que tous les gens dans le monde. Donc pourquoi la personne va m'écouter ? On n'est pas appelé à faire comme les autres. On est appelé à être différent. On est appelé à être des lumières. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Et quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire parfois prendre des décisions qui sont difficiles ou qui nous mettent mal à l'aise. Et je vous raconte encore un petit témoignage de quand j'étais à l'INSPE, l'école des profs à Valence, il y a quelques mois. Mes collègues aimaient bien parfois se réunir autour de la machine à café parler un petit peu dans le dos des profs et dire, il y avait des profs qui n'étaient pas terribles, il y avait le contenu des cours était nul, bref, ça parlait pas très bien, quoi. Et puis, ça les faisait rigoler quand même. Donc, c'était en mode bonne ambiance, mais j'étais pas très à l'aise avec ça. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester silencieuse quand il se passe quelque chose comme ça, parce que c'est pas une bonne chose qui est en train de se passer. Et donc, j'ai pris la parole pour dire, bah, moi, je suis pas d'accord. Et je trouve que ces profs sont super. Je trouve que le contenu des cours est intéressant. Et je pense qu'on devrait pas parler d'eux comme ça. Ça a jeté un gros blanc. Tout le monde a arrêté de parler. Je me suis sentie très mal à l'aise. N'empêche que plus personne n'a jamais redit du mal des profs, en tout cas pas devant moi à la machine à café. Je vous rassure, je me suis pas sentie exclue du groupe. En fait, je m'entendais très bien avec tous mes collègues, donc ça m'a pas mis à l'écart. Je pense que de toute façon, quand on ose faire des pas comme ça, qui sont parfois difficiles, on n'est pas exclu finalement. Je pense que quelque part, ça force un peu le respect. On se dit, mais qui est cette personne qui ose faire différemment ? Ça peut être... Donc là, c'était un petit truc un peu... juste pour illustrer mon propos, mais être différent, ça peut vouloir dire, par exemple, refuser un contrat au travail, un gros contrat, parce que la personne qui nous le propose fait partie d'une entreprise qui a des valeurs qui sont contraires à l'Évangile. Ça peut être refuser de participer à des commérages. Ça peut être rester patient quand tout le monde s'impatiente, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. À l'école, ça peut être aller vers quelqu'un qui est isolé. C'est pas toujours confortable, mais c'est comme ça que les gens se rendent compte que nous, on est différents, on a quelque chose en plus. Dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que notre vie soit motivée par l'amour, l'amour du Sauveur qui est venu sur terre, qui est mort pour nous sauver, qui est ressuscité, et l'amour qu'il nous demande de partager. Parce qu'il n'est pas mort que pour nous, il est mort pour aussi tous les non-croyants là, qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de Dieu, mais qui ont soif de Dieu. Et vous savez, en fait, les non-croyants, ils sont très 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 ouverts d'esprit. Ils connaissent déjà le monde du spirituel, entre les guérisseurs, la mère nature, les médiums et que sais-je. Le spirituel, il existe déjà. Donc n'ayons pas peur de dire « Mais moi, je connais aussi quelque chose. » Et c'est Jésus. Donc, je récapitule trois manières très concrètes de partager l'Évangile. La première, c'est avoir un témoignage tout près et très court. Une phrase « Comment j'étais avant de connaître Dieu ?» Une phrase « Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Dieu ?» Et une phrase « Comment je me sens maintenant ?» La deuxième, c'est de prier. Prier régulièrement, sans que ça devienne un fardeau, puisque, comme Matt l'a dit, on n'est pas responsable de ce que, si la personne pour laquelle on prie va choisir de se tourner vers Dieu, mais on est quand même, on a quand même la mission de partager Dieu à d'autres. Et la troisième, c'est de vivre une vie en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. Je voudrais vous proposer de fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer et de demander à Dieu de vous donner le nom d'une personne autour de vous qui ne connaît pas encore Jésus. Et je vais vous laisser juste quelques secondes et puis après, je voudrais prier pour la personne que Dieu a mis dans votre cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes, parce que tu oublies aucun d'entre nous. Je te remercie parce que tu es venu, tu t'es sacrifié pour nous et parce que tu nous permets d'être des témoignages de ton royaume. Je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as mises dans notre cœur, Je te demande de venir te révéler à elles. Je te demande de préparer leur cœur pour que quand le bon moment soit venu, tu ouvres leurs yeux et qu'elles puissent te connaître et te rencontrer, Seigneur. Je te demande de venir les chercher là où elles sont, de les appeler à toi, de nous montrer aussi si tu nous donnes le bon moment pour partager, de nous donner du courage pour parler de toi. Merci Seigneur, parce qu'on va voir des transformations dans les vies autour de nous. Merci de faire de nous des vaisseaux pour amener la gloire de ton royaume au milieu de la terre. Amen.